Et le grand témoin de notre édition ce soir, c'est Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Alexandre, vous êtes historien de formation, auteur de très nombreux livres, mais votre, votre expertise, c'est l'histoire. Donc c'est un plaisir de vous avoir ce soir sur Radio Shalom pour regarder avec cette perspective historique ce que Robert Badinter a dit le surprendre le plus aujourd'hui. On l'a interrogé pour l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort, et on lui a posé la question du retour de l'antisémitisme. J'imagine qu'on faisait aussi référence à tout ce que charrie autour de lui Éric Zemmour, on en parlera dans une minute, mais déjà, Badinter, qui est un intellectuel comme vous, a dit, je suis très surpris. Je pensais, il a appelé ça les vents de l'histoire. Il a dit, voilà, ça devait partir normalement avec la tourmente de l'histoire, l'antisémitisme le plus classique, l'antisémitisme qui considère que c'est des juifs qui ont déclenché le coronavirus, par exemple, le truc le plus moyenâgeux comme accusation. Et non, on voit autour de nous que ce type de discours est revenu. Alors, vous, Alexandre Adler, déjà, est-ce que vous êtes surpris, comme Robert Badinter? Et deuxièmement, que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas, comment est-ce que vous expliquez que cette bête immonde est intuable?
Ben, je suis peut-être moins surpris que Robert Badinter, pour une raison très paradoxale, c'est que j'ai été amené, à cause des déclarations extraordinaires et surprenantes du Dalai Lama, le plus grand porte-parole du bouddhisme tibétain, qui a déclaré qu'il pensait qu'il y avait une supériorité du judaïsme sur toutes les religions chrétiennes, et qu'il adhérait pleinement aux analyses de la Torah, ce qui est absolument bouleversant, et qui évidemment a semé la consternation chez un certain nombre de partisans du Dalai Lama qui n'en pensaient pas tant. Mais effectivement, Le bouddhisme tibétain, qui a été malheureusement allié à l'Allemagne et au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, est devenu maintenant un allié spirituel d'Israël, et le dit bien ouvertement, et le Dalai Lama n'est pas, malgré tout, une voix négligeable dans ce domaine. Alors ça m'a beaucoup surpris. Mais effectivement, dans le bouddhisme tibétain, il y a aussi la doctrine du Kala Chakra, c'est-à-dire en fait ce que Nietzsche avait appelé l'éternel retour, c'est-à-dire que même s'il y a des cycles qui sont très différents, ils reviennent. Et malheureusement, nous avons exorcisé, au temps de Robert Badinter, de sa jeunesse, qui a été particulièrement tragique, puisqu'il a perdu son père dans des conditions atroces, mais enfin ensuite, il s'est relevé, et il a fait une vie extrêmement glorieuse, et pleine de moments heureux, et qui donc lui ont fait penser que ce cauchemar était maintenant exorcisé. D'autres viendraient, et son combat pour l'abolition de la peine de mort en a fait partie, a été un point culminant d'ailleurs de sa bataille, mais que, au fond, l'humanité était en progrès. Je ne m'inscris absolument pas en faux contre cette idée, parce que je pense, si vous me permettez cette métaphore, que le mouvement est en spirale. Il y a en effet des retours, mais les retours ne se font pas sur un plan sur un plan plat. Nous sommes quand même en ascension. Et donc, même avec les atrocités que vous avez énumérées très justement, eh bien, nous n'en sommes pas tout à fait là. L'antisémitisme existe, il y a des endroits où il se répand, et particulièrement, c'est notre grande surprise, aux États-Unis. Mais il n'est pas aujourd'hui dominant, pas du tout. Il n'a absolument pas atteint l'Allemagne, qui était pourtant, on le pourrait penser, avec le retour du refoulé, particulièrement vulnérable, n'est même pas très fort en Pologne, où les Kaczynski s'effacent maintenant en poursuite de quelque chose d'autre. Il est inexistant en Russie, où pourtant, Dieu sait qu'on le connaît. Et donc, d'une certaine manière, oui, l'antisémitisme est bien là, les folies sont là, les discours les plus aberrants sont là, et Éric Zemmour, qui est pour nous une honte et un élément de désarroi, et là aussi avec ses bêtises. Mais bien entendu, une fois que l'on a dit tout cela et qu'il est nécessaire, Je ne pense absolument pas que nous allons voir des vagues antisémites s'abattre du jour au lendemain. Par exemple, les rumeurs...
Alors, les exemples, Alexandre Adler, avec votre permission, puisque vous êtes notre grand témoin ce soir, les exemples, on va les retrouver dans une toute petite minute, parce que malheureusement, nous faisons de la radio.
Allez-y, allez-y.
Et on est obligé de passer par la pause.
Mais
donc,
bien entendu.
À tout de suite, Alexandre Adler. Et notre invité ce soir est Alexandre Adler, pour évoquer ce qu'on appelle aussi les balbuties de l'histoire, et notamment de l'antisémitisme. Alexandre Adler, qu'il n'est probablement pas nécessaire de présenter sur cette antenne ici, sur Radio Jeune Homme. Peut-être rappeler deux ou trois de ses livres, comme par exemple le rapport de la CIA, ou encore de très nombreux ouvrages sur les États-Unis d'ailleurs, bien que sa spécialité soit plutôt... À la base, je ne sais pas si vous êtes toujours d'accord avec ça, mais à la base, nous, on vous avait découvert quand on était étudiant sur le communisme. Vous étiez ce qu'on appelait à l'époque des soviétologues.
Ben oui, c'était ça, ma grande spécialité, c'était... mais après, je me suis étendu, évidemment, à force de... Ouais. Comme l'Union soviétique voulait être partout,
et ben vous l'avez
suivi. J'ai fini par la suivre jusqu'au Zaïre, voilà, et au Congo.
Alors, c'est vous qui avez fait le lien avec ce dont tout le monde parle. Impossible de finir un dîner sans l'évoquer, c'est Éric Zemmour. Ce qui m'étonne, moi, Éric Zemmour, et on va essayer de, Alexandre Adler sur Éric Zemmour, on va essayer avec vous de prendre un peu de champ, c'est que c'est la facilité apparente avec laquelle Éric Zemmour fait passer le plus gros. C'est-à-dire que Éric Zemmour est contre le regroupement familial. Ben voilà, l'idée d'ailleurs n'est pas nouvelle, mais bon, elle s'entend, il veut pas le regroupement familial. Il paraît que même Chirac était contre, ou Pasqua. Qu'il soit contre le droit d'asile demandé sur notre sol, avec pour des gens qui ensuite ne veulent pas retourner chez eux, bon, il a le droit. C'est tout ça, c'est des sujets de débat. Mais je ne pensais pas possible de toucher aux enfants d'Eva Sandler. Sans y laisser des plumes. Par exemple, Le Pen n'aurait pas pu faire ça sans se provoquer, sans se tirer une balle dans le pied. Zemmour, ça passe.
Écoutez, pourquoi les plumes, il les laissera, hélas. Et ça me fait plutôt peine. Parce que, au-delà de vous et moi, qui sommes indignés, il y a Hachem qui n'est pas content. Et en faisant cela, il a défié, en fait, la loi de Dieu. Alors, je ne suis pas un intégriste, hein. Je ne pense pas que Dieu, comme ça, arrive et lâche la foudre. Mais elle tombe, cette foudre. Et comme c'est un juif et que la Torah nous oblige de sauver tous les juifs, parce que nous sortons de Kippour, nous avons fait une confession globale, et à la différence de la confession catholique devant un prêtre, c'est une confession collective, et dans cette confession, ma femme est toujours indignée quand elle va à Kippour, parce qu'elle dit, mais écoute, moi je n'ai pas fait tout ça, ce qui est vrai, mais nous nous confessons pour l'ensemble de nos péchés, donc compris ceux de Zemmour. Mais espérons effectivement que les Yamim Noraim n'auront pas été trop fataux, n'auront pas une condition fatale pour lui, parce que il va évidemment créer une haine déjà, pas seulement la nôtre, hein. Et nous pouvons la surmonter parce que nous savons que nous ne devons pas toucher un cheveu d'un juif. Et ce qui me touche évidemment chez ce pauvre Zemmour, c'est qu'il est resté, tenez-vous bien, un bon juif. D'abord, je vous le dis parce que moi je ne suis pas du tout opposé au mariage mixte, lui n'en a jamais fait. Il s'est toujours marié juivement à la synagogue. Ce qui pour, je sais qu'il était dans une synagogue où il a été interpellé, évidemment, par le député du coin, mais il a défendu ses positions. Et, il est allé à Lucien de Hirsch, qui était une des écoles juives les moins mauvaises qui soient, où il a appris plus de Kodesh, en fait, qu'il n'a appris de sciences exactes, parce qu'il a un côté autodidacte. Mais enfin, bon. Et cet homme qui a été formé comme nous, mais mieux que nous, mieux que moi certainement, qui est une éducation communiste, et ben voilà ce qu'il fait. Alors, c'est un grand scandale pour tous, et nous devrions en fait faire pénitence, parce que nous avons certainement fait une erreur pour qu'une telle chose soit possible, exactement comme le juif qui a assassiné Yitzhak Rabin. Mais allons plus loin. Ce que je pense pour ma part aussi, c'est que il y a quelque chose, il a fait des transgressions terribles. Alors, bien entendu, vous avez évoqué toute celle-là, vous avez parfaitement raison. Mais, bien sûr, quand on pense à cette histoire affreuse, mais je pense aussi que mon ami Benoît Reski me l'a signalé, il pense que on n'a pas tout dit sur l'affaire Dreyfus. Et qu'on ne sait pas si... oui, tenez-vous bien, il a dit qu'on ne sait pas si le bordureau n'était pas de la main de Dreyfus. Ah, voilà.
Mais il pense aussi, Alexandre Adler, vous tenez ça de Benoît Reski que Zemmour dit Dreyfus n'est peut-être pas innocent ?
Mais oui. Ah, ah oui, d'autant que vous savez que Mathieu Dreyfus avait gardé ses affaires en Alsace. Ils étaient des patriotes absolument extraordinaires. Je connais très bien cette famille puisque je suis le filleul, en fait, du docteur Lévy, qui est le petit-fils d'Alfred Dreyfus. Donc pour moi, ça me touche au-delà de ce que vous imaginez. Mais bien entendu, il a dit et il a insinué que Mathieu Dreyfus avait des affaires en Allemagne. En fait, il les avait en Alsace. Il avait laissé la fabrique textile à Mulhouse, mais ils avaient tout donné à la France. Et comment ? D'ailleurs, Alfred Dreyfus est le seul colonel mobilisé en 1914, parce qu'il avait été réhabilité, qui n'a pas été fait général à la sortie, comme par hasard. C'est le colonel Dreyfus. Moi, je dis toujours le colonel Dreyfus et pas le capitaine, parce que je veux toujours insister sur sa réhabilitation. Enfin, voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'il ose
mais
dire.
Mais on n'a jamais. Alexandre Adler, on n'a jamais vu ça.
Mais
je suis même pas sûr d'ailleurs qu'un leader du Front National soit allé aussi loin.
Ah bah bien sûr que non. Mais tous, n'est-ce pas, dans les souvenirs, ils ricanent, disant ah, ce petit Youpin, il se permet enfin de dire ce que l'on pense tous, mais on ne pourrait pas parce qu'on serait immédiatement condamné. C'est ça qu'il fait. C'est honteux. C'est une honte, je veux dire. Bien entendu, il y a des choses factuelles qui vous indignent tout à fait, vous avez raison de les rappeler. Mais à nos auditeurs qui peuvent être tentés par cela, il est d'abord et avant tout le défenseur de l'anti-France. Et il porte des coups contre lui-même, parce qu'il est membre de la communauté juive jusqu'à nouvel ordre. Le RM n'a pas été prononcé encore contre lui. Encore qu'à mon avis, il va falloir trouver une formule. Parce que ça ne peut pas. Alors bien sûr aussi, il se trouve que ma femme a eu une discussion avec lui il y a très longtemps. Et il a avoué, et je pense que c'est la racine de tout, qu'il est que son père, et c'était rare en Afrique du Nord, malgré le caractère évidemment tragique pour tous les juifs là-bas, surtout en Algérie, de leur expulsion que le FLN avait plus ou peu ou prou programmé et qui s'est réalisé en totalité, quasi-totalité. Eh bien, Blandine a dit, je sais que c'est pour vous le grand drame, mais il dit, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point mon oncle a été torturé, on nous a rendu son corps mutilé, etc. Et mon père était à l'OS. Évidemment, c'est l'OS qui parle en lui. C'est-à-dire qu'ils ont considéré ces pauvres malheureux juifs oranais que, au fond, ceux qui les rapprochaient des antisémites qui avaient aboli le décret Crémieux et les avaient persécutés sous Vichy étaient quand même plus importants dans leur haine des Arabes nationalistes que ceux qui les séparaient. Ce que la plupart des Juifs ne pensaient pas. Et donc, voilà, il a rompu finalement avec son judaïsme, qui est incontestable, en faisant cela.
Mais j'ai envie de dire... Comment vous voyez une cohérence à cela ? Quel intérêt ?
C'est la cohérence morale. C'est un homme qui est petit, qui a toujours la peur de ne pas être pris au sérieux. C'est pour ça aussi qu'il est machiste. Il prétend qu'il va régler les problèmes des femmes par des baffes dans la gueule. En réalité, il est dominé par des femmes, c'est évident. Et par celle-là, comme par la précédente... C'est aussi ce qu'on appelle un peugeotiste, il est resté fidèle à la marque, même en changeant de cylindré. C'est-à-dire que là, il est en train de changer de femme après 25 ans, parce que le kilométrage est trop important, mais c'est la même. Et bien entendu, il est très obsessionnel sur des choses comme celle-là. Mais bien entendu, il n'a aucune cohérence véritable, c'est un gibier psychanalyse. Il est bien entendu aussi tout à fait contre Freud.
Et je suis interloqué par ce que vous avez dit sur l'affaire Dreyfus, parce que
Mais des juifs antisémites, on en a connu, notamment à Vienne, c'était un fléau. Et ils étaient beaucoup plus malins que les autres antisémites, parce qu'eux, ils parlaient de ce qu'ils connaissaient. Karl Kraus, le premier, qui est un grand écrivain aussi, un homme très marrant. Donc c'est peut-être mon expérience allemande me fait penser ça. Vous savez que mon oncle disait toujours d'un certain nombre de communistes allemands qui avaient trouvé refuge en Angleterre et qu'ils connaissaient, die mitmachen wollten, ceux qui auraient bien aimé faire pareil. C'est-à-dire qu'il y avait plein de juifs qui, au fond, auraient aimé rejoindre Hitler parce qu'ils étaient nationalistes, plus allemands que les Allemands, etc. Et puis alors Hitler a dit « Non, non, merci, j'ai mieux pour vous, c'est la chambre à gaz ». Grâce à ça, on a sauvé un certain nombre de juifs honteux. Mais on les a connus, très connus, dans une société antisémite comme la société allemande. Fort heureusement, en France, on la connaissait moins, mais grâce à Vichy, on a mis les bouchées doubles.
Oui, mais on peut comprendre qu'un certain nombre de gens juifs, ou d'origine juive, n'aiment pas notre communauté, n'aiment pas Israël, par exemple. On l'a vu,
oui,
on
parle de... Je le comprends, non, je le comprends pas.
Non,
ça
mais vous avez pas compris.
Non, mais, personnellement, je ne le comprends pas.
Mais moi non plus,
ne
me mettez pas des mots dans la bouche, vous comprenez ce que je veux dire. On peut comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas, voilà, ils n'aiment pas.
C'est pour rebondir. Non, je fais avec.
Mais vous êtes en train de décrire un homme.
C'est le devoir devant chacun de dire « J'aime Israël, j'aime Israël, Israël vivra, Israël vous confondra, toujours. »
D'accord. Mais,
Et on le voit,
par exemple, voilà, je vais essayer de le prendre différemment et vous allez...
L'Arabie Saoudite.
Je vais le prendre différemment, vous allez mieux me comprendre. Par exemple, les gens qui soutiennent Zemmour, que je vois dans la communauté juive, disent deux choses. Ou bien, oui mais il dit ça parce qu'il en a besoin pour faire passer un discours sur les Arabes, voilà ce que disent les gens qui soutiennent Zemmour, ou bien ils disent autre chose. Oui, il dit ça, donc par exemple sur les enfants Sandler, mais c'est pas important, c'est le prix à payer pour qu'ils se battent contre un adversaire qui, lui, nous tue dans les rues, nous tue au Bataclan, nous tue en Israël.
C'est incontestable.
Mais là, vous vous
que
décrivez un homme.
Par des Arabes ou des musulmans. Ouais. Mais je voudrais quand même leur faire dire que lorsque nous avons aussi fêté Rosh Hashanah, les premiers vers, c'est justement ce que nous examinons, toutes nos culpabilités. Eh bien, nous avons commencé par notre culpabilité envers Ishmaël, notre frère. Et que, bien entendu, nous devons nous défendre, défensivement, bien sûr. Mais nous devons savoir aussi que béni soit Ishmaël. Et c'est en train de se passer, et c'est pour cela que les choses changent, et vers le haut, parce que nous sommes maintenant les alliés de l'Arabie Saoudite, souvent contre les États-Unis politiquement corrects. Nous défendons, et particulièrement un homme que j'admire, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Adel Joubert, qui est mon ami personnel, des gens qui ont compris que l'Arabie Saoudite ne sera un vrai des pays développés qu'elle est déjà à certains égards, que le jour où elle acceptera pleinement et sans restriction l'État d'Israël. Et moi, je ne dévoile aucun secret en vous disant que Adel Joubert m'a demandé de l'aider, et je lui ai dit, mais tu sais très bien que je serai toujours fidèle à Israël. Il dit, mais ce n'est pas en dépit de cela que je te le demande, mais pour cette raison. Voilà ce que pense aujourd'hui un homme qui est particulièrement important et central, et le conseiller principal de MBS, de Mohamed Ben Salman, en Arabie Saoudite. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, ceux qui sont des retardataires et qui pensent que, voilà, on va revenir, voilà, Vichy, ceci, l'antisémitisme, se trompent, bien entendu. Peu importe, nous avons avec nous tous les courants de vie de cette société. Et rappelez-vous aussi la parole de l'Écriture. Voilà, j'ai mis devant toi le bien et le mal, ouais. Mais on ne dit pas tu choisiras le bien. Ah, c'est parce que le bien, seul Dieu le connaît. Tu choisiras la vie. Les Haïm. Et c'est choisir la vie que d'empêcher Zemmour de nuire. L'empêcher. Et l'empêcher, bien entendu, en respectant sa vie, bien sûr. Et celle de sa compagne ou de ses compagnes successives.
J'ai compris. Alexandre Adler, ce sera le mot de conclusion en raison
Je suis très très heureux et très reconnaissant à votre antenne de m'avoir donné la parole.
C'est nous qui vous remercions d'avoir été notre invité ce soir, Alexandre Adler.
À
bonsoir
bientôt.
À vous.